Après la biodiversité en 2010 et les forêts en 2011, le nouveau cycle de conférences proposé par l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement à Marseille, à l'Alcazar, est consacré aux villes du Sud. En effet, après une longue période dans le développement orienté uniquement vers les paysanneries et les ressources agricoles, les villes apparaissent depuis quelques années dans le contexte de la mondialisation comme un élément clé de l'avenir des pays du Sud. Ce qui ne va pas sans poser beaucoup de questions, compte tenu notamment de leur croissance accélérée qui échappe de plus en plus à une gestion publique de la ville, engendrant morcellement, cloisonnement et violences urbaines. Un cycle de conférences à Marseille donc tout au long de l'année 2012 pour découvrir les travaux de chercheurs sur des villes telles que Delhi, Casablanca, La Paz, Cotonou et Mexico. La deuxième de ces conférences a eu lieu le 21 avril dernier, Delhi ou le rêve d'une ville sans bidonville, une conférence de Véronique Dupont, démographe, directrice de recherche IRD au sein du DevSoc, l'unité développement et société, associée au CEAS, Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud. C'est cette conférence que nous vous proposons d'écouter pour l'heure qui vient sur les 3-8.
Bonsoir à tous et merci à la bibliothèque de l'Alcazar pour m'accueillir et me permettre de partager avec vous le résultat des recherches que j'ai menées en Inde depuis un certain nombre d'années et actuellement au sein d'un laboratoire qui s'appelle Développement et Société. C'est un laboratoire de l'IRD et de l'Université de Paris 1. Alors, venons-en à Delhi. Alors, Delhi a une longue histoire en tant que capitale. Alors, si je m'en tiens au dernier siècle, Delhi fut la capitale de l'Empire moghol, du 16e, la seconde moitié du 16e siècle jusqu'à la moitié du 19e siècle, puis celle de l'Empire britannique des Indes, de 1911 à 1947, avant de devenir la capitale de la Fédération indienne indépendante. Et aujourd'hui, Delhi aspire à devenir une métropole de rang mondial et une ville libérée de ses bidonvilles. Or, l'ambition de développer les grandes métropoles indiennes en villes de rang mondial trouve ses racines dans les réformes de libéralisation économique et d'ouverture aux investissements extérieurs, investissements étrangers, et c'est une politique qui a été initiée en Inde dans les années 1990. Et une telle ambition a entraîné des restructurations majeures de l'espace urbain, y compris des démolitions de bidonvilles de grande ampleur. Et le cas de Delhi est exemplaire à cet égard. Parce qu'en tant que capitale et vitrine du pays, cette ville a toujours reçu une attention particulière de la part des dirigeants et des urbanistes. En outre, la préparation des Jeux du Commonwealth ces dernières années et leur déroulement en octobre 2010 offraient un moment privilégié pour examiner les transformations en cours. Or, certes, les Jeux du Commonwealth n'ont pas la portée ni l'importance des Jeux olympiques. Néanmoins, comme les Jeux olympiques pour d'autres villes dans le monde, ils ont été utilisés par le gouvernement comme un catalyseur et une vitrine internationale pour renforcer la réputation et l'image de la ville au niveau mondial. Alors, mon exposé sera articulé en 3 temps. Dans un premier temps, je donnerai un aperçu de la dynamique économique et des grandes transformations, restructurations urbaines de Delhi. Je m'intéresserai ensuite aux démolitions des bidonvilles et à la reconversion des terrains. Et enfin, je m'interrogerai sur l'impact des démolitions sur les familles déplacées de force. Mais auparavant, je voudrais vous donner quelques éléments de cadrage général. Or, l'Inde, c'est... je suis démographe, donc ça sera un cadrage démographique. L'Inde, c'est 1,2 milliard d'habitants en 2011, mais sur une superficie de 6 fois celle de la France métropolitaine. Et 53 agglomérations urbaines de plus d'un million d'habitants. Et parmi ces agglomérations, la capitale Delhi est aussi l'agglomération la plus importante, avec 23 millions d'habitants, devant Bombay, 21 millions, Calcutta, 16 millions. Alors, pour mieux fixer les ordres de grandeur, on peut comparer l'agglomération urbaine de Delhi à celle de Paris. Alors, on a d'un côté 23 millions, 10,5 de l'autre. Donc, une population qui fait plus du double, mais sur une superficie 2 fois plus petite, puisque d'un côté, on a 1567 km² pour l'agglomération de Delhi, et celle de Paris, 3043. Donc, Au final, on a une densité de population 4 fois plus élevée dans l'agglomération de Delhi. Et si vous voulez comparer à l'agglomération Marseille-Aix-en-Provence, le rapport des populations est de 1 à 15, puisque Marseille-Aix-en-Provence représente environ 1,5 million d'habitants. Alors, l'expansion spatiale de Delhi a englobé des villes périphériques très dynamiques. Et cette agglomération forme maintenant une mégapole polycentrique parmi les plus grandes de la planète. En fait, selon les estimations d'un organisme appelé Demographia, l'agglomération de Delhi est la deuxième dans le monde derrière Tokyo, Yokohama, 37 millions, et Delhi, 23 millions. Alors, examinons maintenant les transformations de cette capitale. Alors, l'ambition d'atteindre le statut de métropole mondiale est clairement exprimée dans le schéma directeur d'urbanisme de Delhi à l'horizon 2021, dont la vision, alors je cite, est de transformer Delhi en une métropole mondiale et une ville de classe internationale. Alors, ce slogan est aussi récurrent dans les discours du ministre en chef de l'État de Delhi. S'ajoute à cela la visée explicite de faire de Delhi une capitale libérée de ses bidonvilles. Là encore, je cite. Mais derrière ces discours, quelle est la réalité ? De fait, Delhi a connu des restructurations urbaines majeures au cours des 15 dernières années. Or, Delhi et son aire métropolitaine constituent tout d'abord un pôle de croissance économique très dynamique. Le revenu par habitant dans le territoire de Delhi est 2,4 fois plus élevé que la moyenne nationale et inversement, la proportion de la population en dessous du seuil de pauvreté est beaucoup plus basse que dans l'ensemble du pays, 15% contre 28%. Delhi est maintenant une métropole en pleine expansion, dotée de nombreuses fonctions. C'est à la fois un pôle industriel, un pôle commercial et donc une ville qui a largement dépassé sa première fonction, qui était l'administration publique liée à son statut de capitale nationale. À l'échelle de la région nord-ouest de l'Inde, Delhi assure un rôle de première place marchande. Par ailleurs, l'offre d'une main-d'œuvre et de personnel qualifié parlant l'anglais, a attiré de nombreuses firmes internationales dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, les services bancaires, l'hôtellerie. L'investissement des multinationales étrangères concerne également le secteur industriel, en particulier l'industrie automobile, avec des firmes implantées dans la couronne sud. Et au total, les investissements étrangers représentaient déjà en 2004 27% de l'ensemble des investissements dans l'aire métropolitaine. Des zones économiques spéciales, c'est-à-dire des zones franches, destinées à promouvoir l'investissement privé et les exportations, ont également été planifiées aux portes de la capitale. Or, l'influence de la mondialisation sur le développement de Delhi est particulièrement visible dans le paysage urbain et ses transformations rapides suivant un modèle international de modernisation qui tend en fait à induire une certaine répétition et uniformisation des formes urbaines. On a développement de grands complexes résidentiels, multiplication des tours, construction de centres d'affaires et d'ensembles de bureaux modernes, multiplication des grands centres commerciaux. Or, initialement, les changements les plus spectaculaires ont affecté les villes périphériques, en l'instar de Gurgaon et de Noida. Dans Delhi même, l'agence publique de planification urbaine a maintenu son monopole sur les acquisitions de terrains et son contrôle sur leur aménagement. Et c'est seulement dans les années 2000 que l'implication du secteur privé comme promoteur et constructeur de grands projets immobiliers a été encouragée. En conséquence, des opérations immobilières importantes affectent maintenant des terrains récupérés au sein de la capitale. Ces opérations de renouveau urbain concernent notamment d'anciens terrains bâtis reconvertis, des friches industrielles, des bidonvilles rasés, ainsi que des zones écologiquement fragiles, comme les berges et le lit de la rivière Yamuna qui traverse la ville. Or, la modernisation et le développement des infrastructures de transport ont aussi profondément altéré le paysage urbain. Concernant les infrastructures routières, on retiendra en particulier la construction de nombreux toboggans échangeurs autoroutiers, des ponts sur la rivière Yamuna, des voies rapides, ainsi que l'élargissement d'axes préexistants. Un système de transport rapide de masse a également été mis en place, avec un métro aérien, en partie souterrain, et on a aussi un réseau d'autobus à grande capacité avec des couloirs dédiés. Enfin, l'aéroport international a été agrandi avec la construction d'un nouveau terminal et de nouvelles pistes. Alors, un contexte spécifique a accéléré les restructurations dans la capitale. Ce contexte, ce sont les Jeux du Commonwealth d'octobre 2010. Alors, cet événement sportif international a représenté pour le gouvernement et les planificateurs une occasion majeure, on pourrait même dire un prétexte, et une date butoir pour parachever l'embellissement de la capitale et la refaçonner aux exigences, afin de répondre aux exigences de son internationalisation. Alors, la commission pour les investissements, qui a été créée en 2004 au sein du ministère des Finances pour promouvoir les investissements étrangers en Inde, espérait ainsi que les Jeux donneraient une forte impulsion aux investissements étrangers, tout en renforçant la fierté nationale. De nombreux travaux d'infrastructures et projets de renouveau urbain ont ainsi été poussés pour pouvoir être achevés avant les Jeux. Or, bon, si certains de ces travaux d'infrastructures auraient de toute façon été entrepris ou étaient déjà en cours, comme la construction du métro, d'autres projets de construction ont été directement motivés par l'avènement des Jeux, par exemple la construction de nouveaux stades climatisés ou la rénovation de stades existants, construction de vastes parkings, le complexe du village des athlètes que vous avez vu précédemment, des voies de circulation réservées pour relier les différents lieux pendant les Jeux. Or, quand je dis travaux finis à temps, on pourrait dire ou presque. Ainsi, les chantiers qui n'ont pas pu être achevés ont été dissimulés derrière des grandes palissades. Et on pourrait parler d'un exemple d'anarchie fonctionnelle, pour reprendre une expression de John Galbraith, qui a été reprise et utilisée dans un article de Pierre Prakash dans Libération, à l'approche des Jeux, après une accumulation de retards et une série d'incidents, de catastrophes, y compris l'effondrement d'une passerelle. Alors, l'autre côté de la médaille, le coût social de la construction de ces infrastructures modernes et opérations d'embellissement, ce sont des démolitions de bidonvilles de grande ampleur et des déplacements de populations forcés. Alors attention cependant, tous les grands projets et toutes les démolitions de bidonvilles ne sont pas imputables aux Jeux du Commonwealth et toutes les restructurations socio-spatiales ne sont pas nécessairement imputables à l'effet de l'insertion dans la mondialisation. En fait, Delhi avait déjà une longue histoire de nettoyage urbain, entre guillemets, pour faciliter son développement. Juste deux exemples. En 1975-77, pendant l'état d'urgence, donc bien avant les réformes de libéralisation économique et sans événement sportif international comme prétexte, environ 150 000 familles avaient été délogés de force des taudis de la vieille ville et des bidonvilles et déplacés vers des sites de relocalisation en périphérie. En 1982, les Jeux asiatiques ont également été précédés par des opérations d'embellissement et d'éradication des bidonvilles. Cela dit, l'impact de la mondialisation sur le modèle de ville désirable et le contexte des Jeux du Commonwealth ont certainement joué un rôle d'accélérateur dans les opérations de renouveau et d'embellissement urbain au détriment des habitants des bidonvilles. Alors, quels sont les faits ? Alors, une clarification préalable s'impose. Quand je parle ici de bidonville, ce terme désigne des camps de squatteurs, c'est-à-dire des habitations plus ou moins précaires sur des terrains occupés illégalement. Or, en 1998, avant la grande campagne de démolition, la population résidant dans les bidonvilles était estimée à environ 3 millions dans la ville même de Delhi, éparpillés dans environ 1100 poches de taille variée dans les interstices du bâti urbain, n'épargnant aucun secteur de l'agglomération. Alors, ces 3 millions d'habitants de bidonvillois représentaient environ 27% de la population de Delhi, mais occupaient moins de 6% de la superficie urbaine, essentiellement des terrains publics. Or, ces chiffres soulignent donc la très grande inégalité dans l'accès au foncier. Or, comme je vous le disais, ceci était la situation avant le lancement des grandes campagnes de démolition des années 2000 à 2010. Les estimations officielles pour 2011 indiquent ainsi des chiffres à la baisse, avec 685 bidonvilles abritant environ 2 millions de personnes, représentant 12% de la population de la capitale sans les villes périphériques. Alors, quelle a été l'ampleur des démolitions ? Les résultats du dernier recensement révèlent une diminution absolue de la population entre 2001 et 2011 dans certains districts de la capitale, diminution qui est attribuée en grande partie aux démolitions massives des bidonvilles. Selon les statistiques officielles de la municipalité, de 1990 à 2008, au moins 221 camps de squatteurs ont été démolis et 65 000 ménages ont été transférés dans des lotissements en périphérie. Alors 65 000 ménages, ça représente environ 325 000 personnes qui ont été transférées sur des trames d'accueil, c'est-à-dire des parcelles assainies. Cependant, de nombreuses familles ne remplissent pas les conditions d'éligibilité pour accéder à ces parcelles et se retrouvent du coup à la rue sans aucune compensation. En particulier, l'application d'une date butoir d'arrivée dans tout programme de réinstallation exclut nécessairement un grand nombre de familles considérées comme non éligibles, celles qui se sont installées après la date butoir. En outre, si les familles éligibles ne sont pas en mesure de satisfaire toutes les conditions posées, en particulier le versement de charges, c'est-à-dire une contribution financière tout à fait substantielle pour des populations pauvres, elles perdent de facto leur droit d'accès à une parcelle. En conséquence, derrière ces chiffres officiels, on doit donc évaluer le nombre considérablement plus élevé de familles qui ont été expulsées de leur lieu de vie et dont les maisons, si précaires soient-elles, ont été démolies. Par exemple, en 2004, en l'espace de quelques mois seulement, environ 40 000 familles ont été délogées des bidonvilles situés sur les berges de la rivière Yamuna, alors que le nombre total de ménages réinstallés sur l'ensemble de la période allant de 90 à 2008 est, on pourrait dire, seulement de 65 000. Donc l'écart vous donne une idée de l'ampleur de la population délaissée pour compte.
Vous écoutez La Grenouille, c'est Delhi ou le rêve d'une ville sans bidonville, une conférence de la démographe Véronique Dupont, enregistrée le 21 avril dernier à la bibliothèque de l'Alcazar, dans le cadre du cycle Ville du Sud, organisé à Marseille par l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement.
Les démolitions se sont produites sur l'ensemble de l'aire urbaine. Ceci dit, les plus importantes ont affecté des bidonvilles donc situés le long de la rivière. Pour le plan de redéveloppement du front de rivière et la construction du village des athlètes, et ce, en dépit des protestations des environnementalistes, car ces aménagements se situent dans la zone inondable et de recharge des eaux souterraines. Or, d'importantes démolitions ont aussi affecté les zones centrales et sud de la ville, où les quartiers de classe aisée sont concentrés, ainsi que le voisinage de l'aéroport international. En d'autres termes, des zones où la restructuration de l'espace urbain est la plus ostensible. Les lotissements de réinstallation aménagés au cours des 20 dernières années pour les habitants des bidonvilles délogés sont nettement plus éloignés que ceux aménagés précédemment, jusqu'à 30 km du centre-ville. Et ils sont aussi beaucoup très éloignés des sites des bidonvilles démolis. Or, la logique économique sous-jacente à ces démolitions et au transfert des habitants en zone périphérique, réside dans la valeur des terrains occupés par les bidonvilles centraux, beaucoup plus élevée que celle des terrains dans les périphéries. Et dans le processus de transformation de Delhi en métropole mondiale, des espaces autrefois délaissés et occupés par les pauvres sont devenus des terrains recherchés, comme les berges de la rivière. Alors, comment ont été utilisés les terrains rasés de leurs bidonvilles ? On peut se demander quel type de projets urbains et d'aménagements ont justifié des démolitions opérées en principe au nom de l'intérêt public et quel a été l'impact des Jeux du Commonwealth. Alors, je m'appuierai ici sur une enquête que j'ai réalisée en 2007 sur un échantillon de 67 sites de bidonvilles démolis depuis 1990, avec un suivi en mars 2011, donc après les Jeux du Commonwealth. Alors, le premier constat, c'est que certains sites majeurs n'étaient toujours pas aménagés après une dizaine d'années. Or que normalement, si on suit les principes de la politique politique de bidonville, si on peut l'appeler comme ça, les démolitions ne devraient se produire que pour mettre en œuvre des projets d'intérêt public. Or, sur les terrains aménagés, le type d'aménagement et de construction souligne des résultats attendus, des restructurations à l'œuvre dans une ville aspirant à un rang mondial. Ainsi, des bidonvilles ont été démolis pour construire des infrastructures routières, infrastructures de transport, y compris des voies spéciales pour les Jeux du Commonwealth, démolition pour construire des ensembles résidentiels de luxe, des centres commerciaux ou d'affaires. Mais d'autres bidonvilles ont été rasées uniquement en raison de leur proximité avec des sites de nouveaux projets. Bidonvilles situées trop près d'une station de métro, trop près d'un hôtel de luxe, trop près du village des athlètes et des stades pour les Jeux. Alors, dans ces derniers cas, il y avait des questions de sécurité ont également été invoquées pour justifier les démolitions. Enfin, de nombreux terrains récupérés ont été aménagés en parc ou en zone verte, ce qui illustre la priorité donnée à une image de la ville propre, verte et belle, aux dépens du droit au logement des plus pauvres. Or, dans certains cas, les constructions ou aménagements n'occupent qu'une partie marginale ou seulement la bordure du terrain évacué, tandis que la majeure partie du terrain reste inutilisée. Et c'est le cas pour l'ancien bidonville de Gautam Nagar, démoli en 2000 et qui a donné lieu au déplacement de 4000 personnes. Une voie d'accès rapide a été construite uniquement pour gagner du temps. Et en 2011, le site du bidonville, tout le reste du terrain est toujours vacant. Autre exemple du même type, le bidonville de Nanglamachi, démolition qui est intervenue en 2006, plus de 8000 familles expulsées. Et là encore, on pourrait dire que le site est toujours inoccupé. Cela remet en question l'objectif d'embellissement de la ville, comme si la priorité était de chasser les pauvres hors des espaces les plus en vue. Alors on pourrait dire, heureusement, tous les bidonvilles n'ont pas été démolis. Et au moment des Jeux du Commonwealth, ceux qui se trouvaient sur des axes très fréquentés ont été cachés aux yeux des visiteurs derrière des grands panneaux publicitaires à la gloire des Jeux. Bon, et nous allons voir maintenant ce que sont devenues les familles des bidonvilles rasées, dans quelles conditions vivent-elles. Alors j'essaierai de distinguer le cas des familles qui ont été exclues des programmes de réinstallation de celles qui ont eu accès à une parcelle dans un lotissement. Or, l'éradication des bidonvilles sans réhabilitation adéquate a des effets négatifs sur les familles déplacées. Et diverses dimensions de l'appauvrissement suivant la démolition ont été mises en évidence. Impact négatif sur le capital physique, c'est-à-dire sur l'habitation. Impact sur le capital financier, sur les biens mobiliers, sur les revenus, les effets personnels. Impact sur le capital humain, perturbation de la scolarisation, sur la santé aussi. Et impact sur le capital social avec une mise à mal des réseaux sociaux et des liens de solidarité. Et en outre, ces effets d'appauvrissement sont souvent cumulatifs. Alors bon, ici, je ne vais pas avoir le temps de développer tous les effets d'appauvrissement et je développerai une seule dimension, l'impact négatif sur le capital physique. Et pendant la discussion, si vous le souhaitez, on pourra revenir sur les autres aspects. Or, la démolition d'un bidonville, cela signifie pour ses habitants la perte de l'investissement réalisé dans la construction d'une habitation consolidée et améliorée au cours du temps, mais aussi l'anéantissement de l'investissement effectué pour l'amélioration de l'environnement local. Et l'éviction forcée fait basculer de nombreuses familles dans une situation de précarité extrême d'habitat ou de sans-abri qui peut perdurer plusieurs années après la démolition, en particulier lorsque les familles ont été exclues des programmes de réinstallation. Ainsi, de 2000 à 2008, la population des sans-abri à Delhi a augmenté de 53%, alors qu'auparavant, la population des sans-abri était constituée principalement de migrants masculin, d'hommes seuls venant à Delhi pour travailler sans leur famille, on trouve maintenant de nombreuses familles vivant sur le trottoir. Et ce sont des familles dont l'ancienne habitation a été démolie. La pérennisation de cette condition de sans-logis montre que ces familles expulsées n'ont pas pu surmonter le choc de l'éviction et de l'appauvrissement consécutif. Nombre de pertes et de coûts consécutifs à l'éviction forcée concernent tous les habitants du bidonville rasé, qu'ils soient ou non bénéficiaires d'une réinstallation. Mais les exclus des programmes de réhabilitation qui, faute de moyens, vont rester dans l'illégalité en squattant à nouveau des terrains vacants ou les trottoirs, ces exclus vont s'exposer à de nouvelles évictions. Et lorsque des démolitions se répètent ou que leur menace est constante, elles contribuent à la nomadisation de ces laissés-pour-compte et à un processus de paupérisation durable. Or, la répétition des démolitions au cours de nos enquêtes a pu être observée à deux niveaux. Des démolitions récurrentes sur le même site, lorsque celui-ci n'est pas aménagé, et comme je l'ai précisé tout à l'heure, certains sites ne sont toujours pas aménagés 10 ans plus tard, et des évictions répétées dans l'histoire de vie d'une même personne. Alors, intéressons-nous maintenant au cas des familles qui ont pu bénéficier d'une réinstallation dans un logement. Les lotissements de réinstallation, comme je le disais tout à l'heure, ces lotissements se situent en périphérie, lointaine, dans les franges rurales, jusqu'à 30-40 km des sites initiaux. Alors, quelle est la condition des familles réinstallées dans ces lotissements? Alors, une autre précision importante s'impose. À Delhi, jusqu'en 2010, il n'y avait pas de programme de relogement, proprement dit, pour les habitants des bidonvilles rasés, mais seulement l'attribution d'une parcelle dans un lotissement en principe viabilisé, ce qu'on appelle des trames d'accueil, sur lesquelles les habitants doivent tout reconstruire sans aucune aide financière et au contraire, ils doivent payer pour avoir accès à ces parcelles. Donc, les familles transférées dans ces lotissements doivent en fait faire face à de nombreux coûts, les sommes à payer à la municipalité pour accéder à la parcelle, le coût de construction d'une nouvelle habitation, les pertes de revenus lorsque l'emploi initial ne peut être conservé, et sans emploi équivalent possible sur place, car nombreux de ces lotissements se situent vraiment dans des zones rurales. Dépenses supplémentaires de transport, domicile, travail, temps de déplacement quotidien accru du fait de l'éloignement. À ceci s'ajoute la mauvaise qualité et l'insuffisance des équipements, des infrastructures urbaines et des services sociaux, écoles, services de santé. Donc, l'appauvrissement des familles déplacées se produit à deux niveaux. D'une part, par l'éloignement des ressources urbaines et d'autre part, par défaut d'accès à des services urbains et d'équipements sociaux adéquats sur place. Je voudrais aussi attirer votre attention sur la taille des parcelles. Dans les programmes de réinstallation mis en œuvre de 2000 à 2010, les parcelles étaient de 18 mètres carrés et dans certains cas seulement de 12 mètres carrés, ce qui est très petit pour une famille en moyenne de 5 personnes qui doit reconstruire une habitation. Les familles les moins bien dotées, qui n'ont pas les capacités nécessaires pour s'ajuster aux nouvelles contraintes d'un lotissement excentré, on a fait la liste des coûts à supporter, finissent souvent par revendre leur droit d'accès à une parcelle pour réaliser un bénéfice monétaire immédiat. D'autant plus que les offres d'agents immobiliers et spéculateurs sans scrupules sont nombreuses. De telles transactions sont illégales, mais fréquentes. Elles vont s'accompagner, pour les familles qui ont revendu leurs parcelles, d'un retour à la précarité foncière et d'habitat dans des zones plus proches des sources d'emploi. Donc, l'accession à une parcelle dans un lotissement de réinstallation est loin de mettre fin aux difficultés des conditions de vie et d'habitat pour les habitants des anciens bidonvilles. J'en arrive à ma conclusion, mais on pourra poursuivre la discussion si vous avez revenir sur certains points. Alors, l'insertion de l'économie indienne dans la mondialisation, donc l'ambition de transformer la capitale de l'Inde en une métropole de rang mondial, ont eu un impact indéniable sur la restructuration socio-spatiale de la capitale, à travers en particulier des politiques d'éradication des camps de squatteurs qui visent à réaliser ce rêve d'une ville sans bidonville. Cependant, comme j'espère vous l'avoir montré, les politiques d'éradication des bidonvilles, loin de constituer une politique d'éradication de la pauvreté urbaine, se limitent souvent à une politique d'éradication des symptômes de la pauvreté d'habitat dans les espaces urbains les plus en vue. Ce n'est pas parce qu'on ne voit plus les pauvres qu'ils ont disparu. En effet, en l'absence de politique de réhabilitation adéquate, c'est-à-dire une politique qui ne laisserait aucun laissé sur compte sur le trottoir, la destruction des bidonvilles repousse plus loin les occupations illégales de terrain, entraîne l'appauvrissement de nombreux exclus des programmes de réinstallation, sans apporter de solution durable à l'habitat des plus pauvres. Alors, pour essayer de... Alors, si je m'arrêtais là, la conclusion, ça serait que ce modèle de ville accroît la polarisation socio-spatiale et génère de l'exclusion. Or, récemment, depuis 2010, une nouvelle politique qui s'appelle « Planifier les villes sans bidonville » a vu le jour. Et pour mettre fin, dans le cas de Delhi, aux réinstallations dans des lotissements et proposer du relogement en petit appartement. Alors on pourrait dire que c'est un point positif. Mais en fait, quand on voit la liste des conditions pour être éligible à un accès à un appartement, on se dit que ça ne va pas résoudre vraiment le problème des plus pauvres. Il y a des conditions financières, des conditions de... Par exemple, dans certains bidonvilles densifiés, on a un étage. La réhabilitation ne prendra en compte qu'un seul niveau. Donc si vous avez deux familles, une à chaque étage, une seule se retrouvera relogée. Il y a le problème aussi des locataires. Qui ne seront pas forcément relogés. Donc, on a sur le papier une politique très ambitieuse, mais qui risque en fait d'accroître à nouveau les effets d'exclusion en dressant une liste de conditions qui va produire exactement les mêmes effets. Un grand nombre de laissés pour compte, de nouveaux camps de squatters, de nouveaux sans logis. Alors, je vais m'arrêter là pour répondre à vos questions et pour revenir sur certains points. Et merci pour votre attention.
Merci beaucoup. Donc, s'il y a des questions.
On a du mal à imaginer que les autorités administratives et politiques ne soient pas conscientes des conséquences de toute cette planification, de cette politique de la ville, entre guillemets. Et donc, ma question, c'est est-ce que derrière ces plans d'embellissement qui sont peut-être pas uniquement appliqué à Delhi, il n'y aurait pas tout simplement une volonté de mettre en place un exode à l'envers, un exode urbain vers les campagnes, indirectement, puisque une partie des populations exclues n'a plus accès à son travail, puisque déjà il y a la barrière du transport, du coût des transports, etc. Voilà.
Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Et enfin, un exemple, je vous ai dit que la population je vous ai cité les résultats du recensement en vous précisant que dans certains quartiers, il y avait eu une décroissance absolue. Mais quand on regarde même au niveau du territoire de Delhi, la population aussi, la croissance a été très faible. Ce qui veut dire que ces populations qui sont exclues aussi se sont reportées sur les espaces ruraux environnement et sur les villes périphériques. Or, un autre exemple, là, vraiment patent, on pourrait dire, de souhait, on pourrait dire de reléguer les plus pauvres au-delà des portes de la ville. Ça a été avant les Jeux du Commonwealth. Il y a eu, on pourrait dire, carrément des razzias de personnes sans logis et de mendiants, or, qui ont été faites de manière un peu plus ou moins illégale. La municipalité, le gouvernement de Delhi avait soumis un plan pour faire des razzias, on pourrait carrément employer ce mot, de tous les mendiants trouvés dans la rue, et les renvoyer dans leur état d'origine, partant du principe que s'ils étaient mendiants, ils étaient nécessairement des migrants. Bon, les cours de justice ont mis un holà, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé, ça a dû se passer, mais de manière plus ou moins occulte.
Oui, j'avais deux remarques et une question. La première, c'est que vous laissez croire que les bidonvilles qui ont été expulsés étaient des lieux idylliques. Et pour les avoir visités de nombreux fois, je ne crois pas que c'était enviable de vivre dans ces bidonvilles. Donc, ces gens passent d'une situation très précaire à une encore plus précaire. Mais je ne pense pas que de les laisser dans l'état où ils étaient auparavant était la bonne solution. La deuxième, c'est que vous laissez... enfin, il faudrait expliquer pourquoi ces gens sont dans ces bidonvilles urbains et ils ne sont en tout cas pas des villageois qui auraient vécu là depuis des temps immémoriaux. Ce sont déjà des exilés des campagnes. Et donc, ça pose le problème de la propriété foncière en Inde, qui est une situation très complexe depuis des siècles et qui n'a toujours pas été réglée. Et la question, c'est justement de voir quelle est la perspective de tout ça, dans le sens où la population indienne, qui a une croissance non maîtrisée, puisqu'elle a été multipliée par 4 depuis l'indépendance, il suffirait d'imaginer en France ce que serait qu'une multiplication par 4 de la population de 1945 à aujourd'hui. Ça voudrait dire qu'on serait 160 millions d'habitants en France. Et donc, quand on voit qu'il y a 2 millions de mal logés en France, vous pouvez imaginer le nombre de mal logés qu'on aurait ici. Et donc, cette population en Inde est 30% urbaine. Ça veut dire que 70% de la population est rurale. Alors, on peut imaginer que si cette population rurale déferle dans les villes, ça va être une catastrophe humanitaire et écologique sans précédent. Donc, je voulais savoir quelle est votre position sur... cette prospective à 20 ans de l'urbanisation en Inde.
Alors, bon, une précision, je n'ai jamais dit que la condition de vie dans les bidonvilles était idyllique, mais notre solution serait, et c'est ce qui a été fait dans d'autres villes indiennes, c'est justement d'améliorer les conditions de vie sur place en donnant des titres de propriété et d'occupation aux habitants. Il y a eu des programmes de telle sorte dans d'autres villes indiennes, à Ahmedabad, dans l'état du Madhya Pradesh également, à Bhopal. Alors, et certaines associations prônent effectivement ce type de politique, au lieu de déplacer les habitants, d'améliorer leurs conditions de vie sur place. Or, même à Delhi, il y a quand même eu toute une politique d'accès aux services urbains de base qui a été mise en place, en particulier sous l'impulsion de l'UNICEF. Et dans ces bidonvilles, il y a quand même, dans la plupart d'entre eux, des accès à de l'eau, accès à l'eau, accès à des blocs de toilettes publics. Mais la réhabilitation sur place, dans ce type d'amélioration, pose aussi la question de la pérennisation des inégalités. Quand je dis que, par exemple, 27% de la population vit sur 6% du territoire, si on se contente d'améliorer la condition des habitants, on fait ce qu'une urbaniste indienne, dire que le problème devient la solution. Donc ça aussi, c'est limite. Or maintenant, il y a une nouvelle politique, enfin nouvelle, qui, dans le cas de Bombay, elle n'est pas nouvelle, c'est faire intervenir le secteur privé. Alors vous avez peut-être entendu dans le cas de Bombay de parler du bidonville de Dharavi, qui est souvent présenté comme le plus grand bidonville, le plus grand bidonville d'Asie. Alors l'idée, c'est de vendre les terrains au secteur immobilier privé. La charge du promoteur immobilier doit construire des immeubles pour réhabiliter les habitants du bidonville, donc du logement social, et sur le reste de la parcelle, construire des immeubles de rapport, des logements ou centres commerciaux, centres de bureaux. Donc il y a eu il y a eu des opérations qui ont été entreprises à Bombay. Alors ça pose aussi des problèmes si il n'y a pas un contrôle par les pouvoirs publics. Alors dans certains cas, on a des constructions de très mauvaise qualité ou des constructions, des constructions en hauteur. Bon, c'est bien, mais ça veut dire qu'il va y avoir des charges supplémentaires, en particulier si on met des ascenseurs, que ne vont pas pouvoir peut-être des coûts. Donc ne pourront peut-être pas supporter les habitants de ces bidonvilles, ce qui veut dire qu'en fait, les habitants de ces ensembles de relogements risquent d'être habités pas par les populations auxquelles ils étaient destinés. Donc ça, c'est un risque. Alors bon, je voudrais aussi quand même aussi réagir quand vous dites la population non maîtrisée, ce n'est pas le cas. La population bon, de la croissance, de la, c'est un peu moins de 2% maintenant, et dans certains États du Sud, le nombre moyen d'enfants par femme est en dessous ou juste au niveau de reproduction. Donc on ne peut pas généraliser. Or, dans certains États du Nord, l'Uttar Pradesh, le Bihar, c'est sûr, il y a encore peut-être 4 à 5 enfants par femme, mais on ne peut pas dire que l'Inde ne maîtrise pas sa population. Dans certains États, c'est tout à fait maîtrisé. Mais pas partout, mais il y a eu des... Bon, il y a eu des progrès de fait. Alors, il faut aussi se rappeler que bon, la planification familiale est un petit peu tabou, de manière ouverte, puisque ça avait amené à des excès au moment de l'état d'urgence, en 75-77, avec des campagnes de stérilisation forcée. Donc, enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de planning familial, mais bon, c'est d'une manière, on pourrait dire, plus soft. Et oui, pour les causes, oui, non, je n'ai pas... Bon, je ne pouvais pas parler de tout en 40 minutes. Pourquoi des habitants en bidonville? Alors, dans le cas de Delhi, alors c'est vrai qu'il faut revenir à l'histoire de l'Inde. En 1947, partition du pays, la population de Delhi a pratiquement doublé de la fin des années 40 au début des années 47, avec l'afflux de pratiquement 1 million, enfin 700 000 réfugiés. Donc quand on se trouve avec une population qui va doubler en l'espace de quelques années, alors c'est sûr qu'il y a eu des occupations illégales de terrain, des lotissements irréguliers, etc. Donc... C'est là, on pourrait dire, dans le cas de villes comme Delhi, Bombay également, toutes les villes qui a eu déjà un gros problème pour faire face à cet afflux de réfugiés. Bon, ensuite, bon, Delhi est dotée d'une agence de planification qui avait normalement aussi à charge la construction d'habitats et aussi de développer des terrains pour toutes les catégories de population. Or ça, sur le plan, c'était très bien, mais dans les faits, c'est vrai que... Les catégories d'habitat qui étaient prévues pour les plus pauvres souvent ont été récupérées par des catégories socio-économiques supérieures. Et de fait, les objectifs du plan en termes de logement social pour les pauvres n'ont jamais été suivis. Et je suis tout à fait d'accord qu'en fait, au lieu de considérer ces habitants des bidonvilles comme des squatteurs, c'est le mot qui est utilisé en Inde, ou d'encroacher, comme si des empiètements illégaux, il faudrait aussi les voir comme les victimes d'une politique de logement et de planification urbaine qui n'a pas réussi ou qui n'a pas pris en compte les besoins en population, les besoins en logement d'une population pauvre.
Moi, j'avais une question pour rebondir sur votre conclusion qui montre bien finalement la défaillance de là ou des politiques publiques en matière urbaine, donc, pour vous justement essayer de comprendre quels ont été les rôles des ONG hein, dans cette... je suppose qu'ils sont multiples, vous en avez dit un mot à l'instant, là, en matière sanitaire ou je ne sais pas, ou autre, pour accompagner ou faire face à ces déplacements, et puis éventuellement des organisations internationales, donc ONG nationales comme internationales.
Alors là, bon, le rôle des ONG est en fait très variable selon les villes. Alors bon, les ONG sont, on pourrait dire, actives dans toutes les villes pour, bon, dans les bidonvilles, aider à les services, écoles, services de santé, dispensaires, etc. Mais par contre, en matière, on pourrait dire, de résistance aux démolitions ou faire en sorte que les démolitions se passent le mieux possible, à Delhi, je dois dire qu'elles n'ont pas eu beaucoup d'impact. Alors pourquoi? Parce que à Delhi, il y a un acteur très important sur la scène urbaine, ce sont les cours de justice. Alors je vous ai dit que normalement, les bidonvilles devaient être démolis si l'on suit les principes de politique publique, seulement si les terrains doivent être réquisitionnés pour mettre en œuvre des projets d'intérêt public. Et ce que j'ai essayé de vous montrer avec les images de la reconversion des terrains, c'est qu'on ne peut peut-être pas dire que tous ces projets étaient d'intérêt public quand on voit des terrains qui sont toujours inoccupés après 10 ans. Attendez, là, j'ai perdu le fil. Oui, le rôle des ONG. Donc, les cours, alors bon, comme je vous l'ai dit, ce sont des occupations illégales. Donc, il y a aussi eu un certain nombre de jugements par des cours de justice suite à des plaintes d'associations de résidents de quartiers plus huppés pour demander la démolition des bidonvilles au titre de, enfin, en mettant en avant l'utilisation de parcs, enfin le fait que certains parcs n'étaient plus disponibles pour les promenades du matin, enfin etc etc. Donc c'est vrai, devant des cours, des ordres de la Cour de justice, même si la municipalité n'était pas nécessairement très désireuse de démolir ces bidonvilles, il y a eu un certain nombre de bidonvilles qui ont dû être démolis à cause d'ordres de la Cour suprême. Et là, on pourrait dire qu'on voit aussi une injustice sociale dans la justice. Bon, je vous ai montré toutes les démolitions qui sont produites dans le lit de la rivière. Alors, c'est vrai que, normalement, le lit de la rivière, c'est une zone non constructible, mais ça doit être non constructible pour tout le monde. Or, si les bidonvilles ont été rasés, par exemple, le village des athlètes se situe aussi dans le lit de la rivière. Alors, il y a eu des tas d'arguments mis en avant, que des berges avaient été construites, donc ce n'était plus le lit actif, mais une zone protégée, etc., etc. Pas si protégée quand on voit les inondations qu'il y a eu juste après la mousson. Donc on voit aussi, on pourrait dire, une justice et des décisions à plusieurs vitesses dans les cas. Alors pour revenir au rôle des... Oui, et à cause de cela, les ONG ne peuvent pas faire grand-chose à Delhi pour arrêter des démolitions. À Bombay, elles ont été beaucoup plus, on pourrait dire, beaucoup plus actives. Bombay, c'est là où a été fondée l'association des Slum Dwellers International, enfin, l'association des habitants des bidonvilles, et qui ont réussi d'ailleurs, ont été très actifs dans le projet de redéveloppement de Dharavi pour essayer d'arrêter ce projet ou de faire en sorte que les besoins de la population soient mieux pris en compte. Alors Adélie, ce qui m'a beaucoup étonnée justement, c'est que les ONG ne soient pas actives au moins pour faire en sorte que les démolitions se passent sans violence, parce que ce que je n'ai pas eu le temps de développer, quand je disais qu'il y a eu de nombreux coûts, y compris coûts de santé, c'est-à-dire que la plupart des démolitions, à Delhi mais à Bombay aussi, en général s'accompagnent de violences. Dans certains cas, les habitants des bidonvilles ne sont pas prévenus de la date de la démolition. Donc ils partent, on a eu certains cas d'un grand bidonville où plus de 1000 familles ont été délogées, les habitants partent le matin à leur travail, ils sont revenus le soir, tout avait été démoli. Et dans certains cas, je vous ai dit qu'il y a des reventes illégales de parcelles, ce sont des terrains, enfin bon, ça attire aussi des tas de promoteurs. Donc il y a aussi des collusions, il y a eu des cas de corruption avec des collusions entre des entrepreneurs peu scrupuleux, des fonctionnaires corrompus, pour essayer d'écarter des familles éligibles de leur droit d'accès à des parcelles. Et même là, c'est vrai que j'étais un peu étonnée de voir que peut-être que les ONG auraient pu être plus actives, au moins pour être peut-être présentes au moment des démolitions. Alors elles ne peuvent pas arrêter les démolitions s'il y a un ordre de la Cour suprême, mais au moins peut-être pour faire en sorte que ceux qui ont droit accéder à une parcelle puisse y accéder, et aussi essayer de tempérer la violence de la police, une violence qui reflète aussi les préjugés de classe et les préjugés de caste.
J'ai entendu que sur Terre actuellement il reste 1,3 milliard, je crois, paysans, enfin dans le monde. En Asie, c'est là qu'il y en a le plus. En Inde, si je ne me trompe pas, c'est un habitant sur cinq qui
70% oui, des ruraux
qui sont paysans. Donc, en fait, est-ce que la politique de toutes ces mégapoles n'est pas qu'une vaste hypocrisie, puisque on chasse ces paysans de leurs terres agricoles, étant depuis des siècles dans une économie davantage de subsistance, et qui se transforme vers une économie de rente, où on essaie de s'approprier toutes ces terres agricoles qui sont encore très nombreuses et qui peuvent nourrir, je me suis laissé dire, encore pourraient nourrir encore 1 milliard d'habitants sur les 150 millions d'hectares encore disponibles de terres, de bonnes terres, voilà.
Alors peut-être quand même une précision, c'est pas parce qu'il y a 70% de la population qui habite dans les campagnes qu'on a 70% de paysans. Il y a beaucoup de personnes qui ont des activités aussi non agricoles, bien qu'habitant en milieu rural. Et c'est vrai que l'Inde a aussi développé des tas de petites industries. Mais ceci dit, la problématique que vous posez, ce point en particulier, je vous ai parlé dans le cas d'Elie, je vous ai dit qu'il y avait des zones franches qui s'étaient développées, ce qu'on appelle en Inde des zones économiques spéciales. Et dans l'état du West Bengal et dans d'autres états, c'est vrai que ça a posé des problèmes de développer ces zones franches qui sont en fait des véritables paradis fiscaux et des cadeaux faits aux investisseurs. Certaines ont été prises sur des emprises agricoles qui étaient très riches, et ça a aussi suscité effectivement des révoltes des paysans, et surtout à cause des compensations très très faibles au vu des profits qui sont réalisés après dans ces zones industrielles. Les villages ne sont pas forcément, dans ce qu'il advient des villages quand la ville s'étend, ils ne sont pas forcément démolis, ils vont devenir enclavés. Par contre, ce qui se passe, c'est que les paysans, enfin pour ceux qui étaient paysans, ne peuvent plus rester paysans parce qu'ils perdent leurs terres agricoles. Et là, c'est vrai qu'on a des, dans une ville périphérique dans laquelle j'avais enquêté, on a des transformations aussi radicales de ces villages, comme, bon, même dans ces... J'ai dit, il y a des villes industrielles aux portes de la capitale, et comme c'est souvent le cas, rien n'est prévu pour le logement des ouvriers, donc à nouveau, développement de bidonvilles, ou alors dans ces anciens villages qui se retrouvent maintenant enclavés, les anciens fermiers ont construit des habitations, enfin d'une pièce, et une sorte de secteur immobilier vraiment bas de gamme pour cette population ouvrière. Alors, dans d'autres cas, par exemple, l'agrandissement de l'aéroport, il y avait un village, le village a été rasé en faisant passer le village comme bidonville. Dans le lit de la rivière Yamuna, il y avait aussi là des vrais paysans qui cultivaient des légumes, culture maraîchère, qui ont aussi été expulsés et traités de la même manière que ce qu'on considérait comme squatteurs, bien qu'ils aient, certains m'avaient montré, des titres d'occupation des terrains qui dataient des Britanniques. Enfin, d'exploitation des terrains, plutôt.
Il me semble que là, c'est une illustration des méfaits de la mondialisation qui est évidente et qui avait le choix, et on avait le choix entre la guerre contre la pauvreté, et indéniablement, c'est la guerre contre les pauvres qu'on mène. Oui.
Mais ceci dit, les migrants qui viennent en ville, ce ne sont pas tous des paysans sans terre. Si on vient en ville, c'est parce que la ville reste aussi... fournisseuse d'emploi, et que les conditions que... Alors moi, je ne veux pas tracer un portrait idyllique des villes, des conditions de vie en bidonville, mais il faut quand même considérer qu'en général, ces gens ont un raisonnement aussi économique, et que s'ils viennent en ville, même en sacrifiant leurs conditions de vie, en vivant dans des bidonvilles ou même sur le trottoir, c'est qu'ils peuvent obtenir des revenus qu'ils n'obtiennent pas dans leur milieu d'origine. Dans leur village. Donc la ville est aussi un lieu d'espoir, même si les conditions de vie sont très dures pour eux, et c'est pour ça qu'elle continue d'attirer tant de migrants.
Je voulais vous demander, vous qui avez l'habitude et qui avez été déjà depuis de nombreuses années vécu et avez cette expérience indienne, vous le voyez comment le développement de l'Inde?
Oh là.
Et est-ce que ça va avoir un impact positif justement sur ces populations si ça continue à se développer avec une croissance dans le bon sens, on va dire.
La croissance de l'économie indienne est très forte, autour de 7%, 8%. Alors le pari de l'Inde, c'est qu'il y aura un effet d'entraînement, qu'avec une telle croissance économique, ça entraînera les plus pauvres. Alors c'est sûr que si on regarde peut-être les niveaux... Alors il y a des tas de débats et de polémiques, pas seulement de débats, sur la réduction de la pauvreté en Inde. Et elle a quand même diminué, mais c'est la pauvreté, on pourrait dire, absolue qui a diminué, mais on pourrait dire que la pauvreté relative augmente du fait que certaines classes sociales ont tout à fait profité de l'insertion de l'économie indienne dans le mouvement de mondialisation. Donc les différences s'accroissent, en tout cas de mode de vie. Mais là aussi, il ne faut pas avoir une vision idyllique du passé. De toute façon, la société indienne a toujours été une société très inégalitaire. Mais ça ne s'arrange pas, on pourrait dire.
Oui, dans ces bidonvilles, quelle est la proportion des gens qui travaillent Et quel type de travail font-ils ?
Ben, je dirais tout le monde travaille. On ne peut pas se permettre de rester dans un bidonville ou rester en ville si on ne travaille pas. Alors, il y a beaucoup d'ouvriers, de personnes qui travaillent dans les transports, conducteurs de rickshaw, pousseurs de vélo rickshaw. Les femmes souvent travaillent, enfin dans le secteur des services, seront domestiques dans les habitations, dans les immeubles résidentiels plus chics, ce qui pose un problème justement au moment de la relocalisation dans ces périphéries lointaines, parce que quand il y a beaucoup d'emplois de proximité, quand on envoie les gens en périphérie, ces femmes qui avant par exemple travaillaient comme domestiques, aller faire une heure de ménage dans plusieurs maisons, elles perdent leur emploi et elles peuvent pas trouver d'emploi équivalent sur place. Donc on a toute une variété, beaucoup dans la construction aussi. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces bidonvilles et Daravi, on est l'exemple peut-être le plus frappant, ce sont aussi des lieux de production. Il y a carrément des petites industries manufacturières dans le bidonville même. Dans les grandes bidonvilles, il y a aussi beaucoup d'activités aussi de recyclage des ordures. Donc on trouve un peu une gamme. Et alors pas à Delhi, mais dans le cas de Bombay, l'accès au foncier et au logement est tellement cher qu'on peut même trouver aussi des personnes qui ont un revenu salarié et qui sont... ou même voir fonctionnaires ou employés dans les chemins de fer, mais qui ne peuvent pas se permettre des logements de meilleure qualité.
C'était Delhi ou le rêve d'une ville sans bidonville, une conférence de la démographe Véronique Dupont, enregistrée le 21 avril dernier à la bibliothèque de l'Alcazar, dans le cadre du cycle Ville du Sud, organisé à Marseille par l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette conférence si vous le souhaitez sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com. Prochaine conférence du cycle Ville du Sud, Casablanca, quel service pour la ville ? Une conférence de l'économiste Claude de Miras, ce sera le 8 septembre 2012 à 16h à la bibliothèque de l'Alcazar. Entrée libre, plus d'infos et contacts sur ird.fr.